Et vraiment, je l'ai senti sur mon cœur. Et je peux te laisser mettre le titre. Parce que c'est quelque chose qu'on n'aime pas forcément. On n'aime pas trop en parler. C'est parfois difficile aussi de le partager. C'est souvent difficile à vivre. Et là, vous avez le titre derrière moi. Et surtout, je me suis dit, mais pour un culte de rentrée, vous voyez, il y a les nouvelles personnes qui viennent, il y a tout ça. Donc souvent, on veut des choses. Voilà. Et Dieu m'a vraiment mis fortement sur mon cœur. Et c'est ce que Johanna vient de partager. Meurs à toi-même. Meurs à toi-même. Mourir à soi-même pour vivre en Christ. Et j'ai trois idées que je voudrais partager avec vous. Mourir à soi-même, d'abord, dans Galates 2, versets 19 à 21, c'est Paul qui parle et il dit « C'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » On va expliquer un petit peu, parce que c'est parfois voilà, des versets un peu très denses, très riches, et on va les développer, les expliquer. D'abord le contexte. Donc si vous êtes dans cette église depuis au moins 6 mois, normalement vous le savez, les Galates, ils avaient eu une expérience de la grâce de Dieu. La grâce, c'est juste que quoi que je fasse, ça ne suffira pas. Et la grâce, elle vient, la loi, c'est quoi que je fasse, ça ne suffira pas. Et la grâce, elle vient juste pour nous, pour dire c'est gratuit. Tu as juste à accéder à moi. Même peu importe ce que tu fais, tu peux, ne te prive pas de ça. Et les Galates, eux, comme c'était peut-être des concepts, on ne sait pas pourquoi, mais comme c'était peut-être des concepts nouveaux ou des gens mal intentionnés, on ne sait pas du tout pourquoi, mais ils avaient tendance à retourner sous la loi en disant, mais au moins, je caricature, hein, mais si on me dit quoi faire, si jour après jour, on me dit, ça, tu ne triches pas, ne commets pas adultère, ça, c'est la loi. Si je vous dis, ne regardez pas la porte, ça, c'est des règles. Et on essaye chaque jour de les respecter. Et comme ça, on se dit, on va accéder à Dieu. Sauf que ça ne marche pas. Parce que les règles, il y en a tellement. Parce que Dieu, il est parfait. Il est parfait, Dieu. Et donc, juste, ce n'est pas possible. Rien que le fait de vous avoir dit de ne pas regarder la porte, vous avez tous envie de regarder. Juste, vous avez envie de regarder cette porte. Et la loi, elle fait ça. Elle vous montre juste, vous n'allez pas y arriver. Ce n'est pas possible de respecter toutes les règles tellement Dieu est bon et parfait. Et là, Paul, du coup, c'est comme s'il les dispute en leur disant, mais vous n'avez pas compris? C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on peut vivre connecté à Dieu. Et ce ne sera jamais la loi. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas possible. Et le seul but de la loi, c'est de montrer que ce n'est pas possible. Et quand on se met à genoux et qu'on crie à Dieu en disant « mais j'y arrive pas », c'est à ce moment-là qu'on peut, je crois, comprendre et avoir une révélation de la grâce de Dieu. Amen. Et au milieu de Paul qui développe ces arguments-là par rapport à la grâce, par rapport au fait de dire « mais ce n'est pas la loi, c'est la grâce », il y a ce petit, vous l'avez au milieu, « ce n'est plus moi qui vis ». Cette petite phrase « ce n'est plus moi qui vis ». Et mourir à soi-même, ce n'est pas cesser d'exister ou de perdre notre personnalité. Parfois, on pense ça. Quand il est écrit « ce n'est plus moi qui vis », je pourrais avoir tendance à me dire « ça veut dire que ça va détruire ma personnalité, ça va détruire mon caractère, ça va détruire ce que j'ai envie, ça va détruire ce que j'ai envie, ça va détruire tout ça ». Ce n'est pas du tout ça. Ça, une fois, il y a longtemps, j'avais regardé une émission sur les sectes. Ça, c'est ce que font les sectes. Les sectes, le témoignage, c'était quelqu'un qui était violoniste, pas du tout doué de ses mains pour le bricolage et tout ça. Dans une secte, cette personne-là, on va vous le mettre à l'atelier menuiserie, avec des machines pour qu'il se coupe un doigt à un moment donné et qu'il puisse plus faire de violon. Ça, c'est ce que font les sectes. Ça, c'est détruire la personnalité des gens. L'évangile et Jésus-Christ, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et c'est important de le comprendre. Parce que je sais que moi, au début de ma vie avec Dieu, quand on me dit faut mourir à toi-même, je me dis bah non, je sais pas, j'ai un caractère, j'ai une personnalité, il y a des choses que j'aime, il y a tout ça. Et j'avais l'impression que ça voulait dire il faut abandonner tout ça. Oui, c'est pas ça. C'est pas ça, mourir à soi-même. Mais c'est vivre pour quelqu'un d'autre. Et là, Paul nous dit, ce n'est plus moi qui vis. Alors, qu'est-ce que ça signifie un peu plus dans le détail? D'abord, c'est un changement d'identité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est un changement d'identité. C'est l'homme, c'est comme si Paul il nous disait, et on va l'appliquer pour nous après, mais c'est comme si Paul il nous disait, l'homme que j'étais avant de rencontrer Jésus, ben, j'étais quelqu'un d'orgueilleux par rapport à la religion. J'avais un zèle de légaliste, j'avais des ambitions personnelles. Et tout ça, ça n'existe plus. Ça, c'est l'homme que j'étais avant. Ça, c'était Paul, vous lisez les évangiles, c'est comme ça qu'il était avant. Et maintenant, il nous dit, mon ancienne vie, elle a pris fin. Maintenant, je suis dans une nouvelle vie et ce n'est plus moi qui vis. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voilà, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mourir à soi-même, c'est reconnaître que ma vie ne m'appartient plus. Et c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas des messages connes, parce que c'est un peu compliqué. Mais c'est ça, et c'est le cœur, c'est, je pense, le cœur même de l'évangile. C'est que ma vie ne m'appartient plus. On dit, enfin, vous pouvez dire amen, mais c'est compliqué, ça coûte, et on va y venir, mais c'est douloureux. C'est douloureux. Mais il y a une espérance là-dedans. Mais voilà, je ne vis plus pour mes rêves, je ne vis plus pour mes désirs, je ne vis plus pour ce que j'ai envie. Je vis pour Christ. Et parfois, il y a une confusion, et je pense surtout dans nos milieux, dans nos milieux évangéliques. Philippiens 4, verset 19 nous dit, celui-là on le connaît, et celui-là on le répète souvent, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Ça, c'est des versets qu'on aime davantage. Sauf que ce verset-là, il dit mes besoins. Et nous, dans nos milieux, et j'en fais partie, enfin j'en faisais partie, on a tendance à dire que Dieu pourvoira à toutes mes envies. Vous voyez, besoin et envie, ça n'a rien à voir. Besoin et envie, ça n'a rien à voir. Il est marqué dans l'évangile que Dieu pourvoira à nos besoins. Il n'y a pas marqué qu'il pourvoira à nos envies, puisque c'est le contraire. Nos envies, elles doivent mourir pour avoir des envies alignées sur la pensée de Christ. Et c'est juste un témoignage, alors ça ne vous paraît rien du tout, mais pour moi c'est comme ça aussi que Dieu me parle. On a une voiture qui est vieille, et là je commence à regarder des voitures, et clairement j'ai entendu Dieu me dire, mais c'est ce que tu as envie ou c'est ce que tu as besoin? Et j'ai toutes les raisons, hein. Ma voiture elle a quoi, 280 000 km, on roule beaucoup pour le travail, pour les déplacements, pour l'église, voilà, quand Joe est invité, etc. On utilise beaucoup la voiture, donc tu as envie de te dire... Ben ouais, mais il faut. Alors, on va la changer un jour, hein. On va la changer. C'est une Peugeot, elle n'est pas éternelle. Mais du coup, en priant pour ça, Dieu me dit, t'as envie ou t'as besoin? Et en fait, sur rentrer dans le détail, dans une discussion avec Dieu, t'as envie ou t'as besoin? Ouais. Et Dieu, il pourvoira nos besoins, pas nos envies. Hein. Donc, si on a des. Si on, dans un coin de notre tête, on se dit, Dieu, il va pourvoir à tout ce dont j'ai envie. Alors, vous le savez, parce que vous n'avez pas forcément vu l'exaucement sur tout. Mais surtout, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas ça qui est marqué dans la parole de Dieu. C'est pourvoir à nos besoins. Amen. Et mes avis, mes désirs, je le répète, ils doivent s'aligner aux envies et aux désirs de Jésus-Christ. Avec ma nouvelle identité, en même temps, Paul il ne dit pas qu'il n'est rien. Paul il ne dit pas qu'il est vide. Il ne dit pas ça. Il dit « je ne vis plus, je suis une nouvelle personne, une nouvelle identité ». Pour autant, il ne dit pas « j'ai plus rien, j'ai plus de personnalité, je suis vide ». C'est le deuxième point, c'est Christ qui vit en moi, c'est la vie de l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Et c'est ça qui prend la place. Il y a une substitution, je répète, il y a une substitution, un remplacement entre le moi, entre ce que je voulais moi, qui était limité, qui était pécheur, et le nouveau moi de ce que Dieu il a prévu pour moi. Et c'est vraiment un remplacement. Et quand on remplace des choses, ben, il faut faire la place pour que la nouvelle chose elle arrive. Et parfois, ou souvent, faire la place, ben c'est ça qui parfois fait mal. C'est ça qui demande, qui est douloureux. C'est ça qui demande ce remplacement pour que le nouveau moi, la nouvelle identité, elle puisse se substituer à ça. Je me suis marqué en question, est-ce que ce ne serait pas le projet pour nous, pour 2026, ça c'est la rentrée, pour 2025-2026, est-ce que ce ne serait pas un projet pour nous de mourir à nous-mêmes? Alors je sais que ça va peut-être réduire le nombre de personnes, ce n'est pas les sujets les plus... mais je crois que c'est ce que Dieu est en train de faire. À la fois pour nous en tant qu'individus, et à la fois pour nous en tant qu'Église. C'est la même chose en tant que corps, en tant que communauté. Que nous puissions disparaître pour que la nouvelle identité, les nouvelles choses que Dieu est en train de faire puissent prendre toute leur place. Un troisième petit point, on continue dans Galates 2, verset 20. « Je vis dans la foi au Fils de Dieu » qui m'a aimé s'est livré lui-même pour moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu ou je vis dans la confiance au Fils de Dieu. Paul, il ne dit pas « j'essaye d'être parfait », il ne dit pas du tout ça. Il nous dit « c'est une vie de foi ». Ce n'est pas une vie d'effort humain, ça ne nous demande pas humainement de faire des efforts, ça nous demande d'avoir confiance en Dieu pour cette vie nouvelle. Amen. Mourir à soi-même, ça signifie que mon ancienne nature, elle est morte en Christ. Mon ancienne nature, la personne que j'étais avant est morte en Christ. Qui a une vie nouvelle qui commence, c'est Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu en moi. et que je ne vis plus pour moi, mais je vis pour celui qui m'a aimé et celui qui a donné sa vie pour moi. Amen. Le deuxième gros point, donc le premier c'était mourir à soi-même, le deuxième c'est pour quelles raisons ? Quelles sont les raisons de mourir à soi-même ? Alors j'en ai mis que deux. Le premier c'est un acte d'obéissance. Rien que ça, ça devrait nous suffire comme raison. Rien que ça, ça devrait nous suffire comme raison. C'est un acte d'obéissance. Christ est notre modèle et lui l'a fait pour nous. Il a renoncé à une gloire qui était céleste. C'est bien de méditer ces choses-là. Je nous encourage à méditer ces choses-là. Il était au ciel, tout allait bien. Dans la Trinité, il n'y avait pas de problème relationnel. Il avait tout. Tout était parfait. Et il a renoncé à ça pour venir sur la terre. Et souvent, on dit qu'il serait venu pour une seule personne. D'accord ? Il a renoncé à tout ce qu'il y avait au ciel pour venir sur la terre. Et nous, on est appelés à être des disciples de Jésus-Christ. Un disciple, c'est juste quelqu'un qui reproduit ce que le maître y fait. Un disciple, c'est quelqu'un qui reproduit ce que le maître fait. Comme Jésus l'a fait, ben on doit faire pareil. Si quelqu'un, Luc 9, verset 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Renoncer, ça veut dire mourir à soi-même. Et je sais que porter sa croix, je ne sais pas si ça vous le fait, mais il y a certains milieux, catholiques notamment, pour ne pas les nommer, mais qui en parlent souvent. Et nous, dans nos milieux évangéliques, on en parle peu de ce verset-là. Enfin, beaucoup moins en tout cas, beaucoup moins, le fait de porter sa croix. Et pourtant, c'est marqué noir sur blanc. D'accord ? Et la croix, c'est mon envie, c'est mon être, c'est ma personnalité qui meurt à Jésus, j'allais dire jour après jour. C'est pas de la flagellation, porter ma croix. Moi, très souvent, j'ai cru que c'était qu'il fallait comme se flageller. C'est pas non plus de l'apitoiement sur soi, c'est pas du tout ça. C'est juste que jour après jour, je renonce à moi-même, que je diminue pour que Christ augmente. C'est ça, porter ma croix. La deuxième raison, c'est pour vivre une vie nouvelle. On n'a pas deux vies. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression qu'on a la vie d'avant et la vie nouvelle ou la vie qu'on nous propose à l'église. Et ça ne marche pas. On ne peut pas être à moitié dans la vie d'avant et à moitié dans la vie nouvelle, à moitié dans la vie qu'on nous propose, que Christ nous propose. Et en plus, c'est extrêmement inconfortable d'essayer de vivre comme ça et ça ne marche pas. C'est inconfortable de vivre moitié la vie d'avant, moitié la vie nouvelle. Et dans le royaume de Dieu, dans les principes du royaume de Dieu, c'est tout le temps la mort qui précède la gloire. Je répète, c'est tout le temps la mort qui précède la gloire dans le royaume de Dieu. Jean 12, verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et en faisant les recherches, etc., j'ai trouvé cette phrase que je trouve très bien. Mourir à soi-même, c'est le chemin vers la fécondité spirituelle. Je répète, mourir à soi-même, c'est le chemin vers la fécondité spirituelle. Et tous les témoignages des hommes, des femmes de Dieu, tous les témoignages, ils ont tous connu un brisement, une mort à eux-mêmes. Vous pouvez prendre quasiment tous les personnages bibliques. On en a parlé avec David dans la caverne, avec Moïse dans le désert, Esther, elle risquait sa vie en allant voir le roi, Joseph en prison, Daniel dans la fosse. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Et c'est encore la même chose dans l'histoire de l'Église. Depuis 2000 ans, depuis l'Église primitive, depuis 2000 ans, vous lisez l'histoire de l'Église, tous les hommes et toutes les femmes de Dieu ont vécu ces choses-là. Que ce soit des gens connus ou des gens pas connus. Ça fait partie d'un passage obligatoire. On ne peut pas se dire, j'ai pas besoin de mourir à moi-même. Ce n'est pas une option. Troisième gros point, comment faire ? Parce que vous allez me dire, alors déjà ce que tu dis, ça nous a calmés. Mais en plus, si tu ne dis pas comment faire, c'est un peu embêtant. Comment faire pour mourir à moi-même ? Tu peux m'enlever le verset ? On va le reprendre juste après. Juste avant le verset là, donc c'est quand même le grand 3, comment faire pour mourir à soi-même. L'image que j'avais, vous voyez ce que c'est du placo ? Les placos, ce qui est derrière là, c'est des grandes plaques. Je ne sais même plus, 1m20 par 2m50, quelque chose comme ça. Vous les posez sur une ossature métallique. Et entre les placos, il y a des bandes. C'est-à-dire que vous mettez un bout de papier qui est comme ça, qui est enduit, qui est réenduit, qui est poncé, qui est enduit, etc. Et si vous voulez voir si c'est bien fait ou pas bien fait, si vous voulez voir si c'est extrêmement bien fait, vous prenez une lumière, style un gros halogène bien puissant, et vous le mettez contre. Vous le mettez à ras. C'est-à-dire que c'est comme si là, je mets là où il y a ma main, je mets une lumière rasante, je vais voir tout ce qui est là. Et là, tous les défauts, ils sautent aux yeux. C'est une lumière rasante près du mur. Tous les défauts, on les voit tout de suite. Et d'ailleurs, je lisais, quand vous lisez les normes, c'est-à-dire quelqu'un qui ferait construire une maison neuve, il y a le DTU. Le DTU, c'est la norme pour savoir si les choses ont été faites dans les règles de l'art. Ben, c'est marqué, pas de lumière rasante. C'est marqué pour voir s'il y a des défauts. On reste, je ne sais plus, à la hauteur du... La hauteur de la salle, je crois. Donc si le mur fait 2,50 m, vous êtes à 2,50 m du mur pour voir s'il y a des défauts. C'est marqué, on ne vient pas avec une lumière rasante. Parce que si on met une lumière rasante, même si c'est des bons professionnels, on voit quand même des défauts. On considère que si on est à 2 mètres ou 2,50 m du mur, c'est acceptable. De là où vous êtes, le mur derrière moi, il n'y a pas de défaut. Si jamais on met une lumière à ras du mur et qu'on l'approche, à ras du mur et qu'on la met de profil, alors même que c'est Christophe, alors même que c'est Gérard et qu'il travaille bien, on verrait des défauts. Et bien, c'est la même chose avec l'évangile. Sauf que la lumière rasante, je pense que je ne vous apprends rien, c'est ça la lumière rasante. D'accord ? Et alors, je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle, mais avec Dieu, c'est une bonne nouvelle. Merci. La bonne nouvelle, c'est que lui, il met une lumière rasante. Pas pour nous pointer du doigt les défauts, mais pour mettre un coup d'enduit de plus pour que ce soit propre, pour que ce soit nickel. Pour que quand on voit le mur ou quand on voit ma vie, ce soit lui qui soit glorifié. C'est pas de me dire, je prends mon cas, mais c'est pas de dire Pierre il est super ou Pierre il est génial. C'est juste de dire Dieu il a tellement fait son œuvre en lui qu'aujourd'hui il est gentil, il est calme, il est doux, il est humble de cœur. Il y a 20 ans ou 25 ans, j'aurais tapé des gens. Et c'est juste parce que Dieu il s'approche. Et il reste pas à 2 mètres ou à 2 mètres 50 de nous. Dieu il s'approche de nous. Il s'approche comme la lumière rasante. Pour nous encourager, pour nous montrer, pour mieux faire. Amen. Je vous mets quelques exemples. Donc, du coup, ça veut dire que ça, il faut le rapprocher. Et je vous mets quelques exemples pour savoir si vous êtes mort à vous-même ou pas. Chacun peut s'analyser. Vous pouvez le faire à voix basse. C'est pas la peine de le faire à voix haute. Merci. Est-ce que votre bouche, elle est tenue ou pas? Est-ce que ma bouche, est-ce que j'ai parfois des choses qui sortent de ma bouche où j'aurais pas dû et je devrais le rembobiner? Est-ce que mes pensées sont sous contrôle ou c'est un champ de bataille dans ma tête? Ma mentalité, est-ce que j'ai une mentalité du monde ou est-ce que j'ai une mentalité du royaume de Dieu? Ma mentalité sur l'argent, sur le pouvoir, sur les relations, quelle mentalité j'ai? Comment tu regardes les autres? Tu regardes les autres comme étant supérieurs à toi-même ou comme étant inférieurs à toi-même? Est-ce que tu t'apitoies sur toi-même? Mourir à soi-même, c'est pas que sur des choses bonnes ou mauvaises. C'est vraiment une reprogrammation. Ce n'est pas une mise à jour d'un logiciel. Vous savez, vous avez les ordinateurs et de temps en temps, vous dites une mise à jour d'un logiciel. Mourir à soi-même, ce n'est pas une mise à jour. C'est on achète un ordinateur neuf. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que, pour savoir si on est mort à nous-mêmes, est-ce qu'on est connu pour être doux? Est-ce qu'on est connu pour être des personnes qui pardonnent vite? Est-ce qu'on est connu pour avoir des bonnes relations avec autrui? Est-ce qu'on est connu pour aimer sans limite? Que ce soit nous à titre individuel ou que ce soit nous en tant qu'Église. Amen. Donc la Bible, notamment la Bible, il y a d'autres choses aussi, notamment les frères et sœurs, quand ils s'approchent de moi et qu'ils me disent « Là, Pierre, tu aurais peut-être dû mieux faire », c'est comme la Bible qui s'approche de moi, c'est comme Dieu qui me dit « Là, tu aurais pu mieux faire ». Toute proportion gardée, mais vous avez compris. Amen. Nous sommes transformés au contact de sa parole. Et là, tu peux mettre le verset si tu veux. Donc le premier, c'était mon image, c'est la lumière rasante. Mon deuxième, sur comment faire pour mourir à moi-même. Le deuxième, c'est un verset que, c'est pareil, j'aime pas. Désolé, oui, j'aime pas, c'est vous lisez le verset, ça fait pas envie. Mais ça fait partie de la vie avec Dieu. Ça fait partie des choses dont on a besoin. Ainsi donc dans 1 Pierre 4, verset 1 à 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Vous aussi, armez-vous de la même pensée par rapport à la souffrance. Et juste deux points par rapport à ça. Le premier, c'est qu'on ne parle pas précisément de la souffrance dans la maladie. C'est que là aussi, il y a d'autres courants, d'autres religions où ils pensent que la souffrance dans la maladie, ça, c'est une bonne chose, ça apporte, etc. Ce n'est pas ce que nous croyons et ce n'est pas du tout ce que dit ce verset-là. Armez-vous de la pensée de souffrir, ce n'est pas pour dire « je suis malade, c'est Dieu qui m'a donné la maladie et je vais souffrir ». Ce n'est pas du tout ça que dit ce verset. Ce n'est pas la maladie qui est douloureuse pour apprendre, ce n'est pas ça. La deuxième idée qu'il ne faut pas... Voilà, et moi, j'ai cru ça pendant longtemps, c'est que j'ai pensé que ce verset parlait uniquement de la persécution qui arriverait. C'est-à-dire, armez-vous de la pensée de souffrir, c'est que le jour où... Parce que c'est marqué dans l'Évangile que vous serez persécutés, c'est que le jour où la persécution arrive dans notre pays, ben, comme on aura été armé de cette pensée de souffrir, c'est bon. C'est comme si tu avais été équipé pour la persécution à venir. Ces deux choses, la maladie et la persécution, c'est une approche très réductrice de ce verset. Et ce n'est pas ça que ça signifie précisément. Alors qu'est-ce que ça signifie dans notre situation, dans notre pays aujourd'hui? C'est un état d'esprit. C'est est-ce que tu es prêt, est-ce que nous sommes prêts à souffrir? Là aussi, je vous donne quelques exemples. Est-ce que tu es prêt à refuser de te défendre parce que tu te dis que c'est Dieu ma justice? Ça, c'est quand Dieu te dit « donne-moi le dossier, je m'en occupe ». Est-ce que tu es prêt, toi, à ne pas te faire justice, juste à dire « Dieu, je te confie les choses ». Est-ce que tu es prêt, prête à prendre position contre la majorité, que ce soit au travail, que ce soit au lycée, que ce soit à la fac, que ce soit en apprentissage, que ce soit dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu acceptes de faire certaines choses dont tu n'es pas responsable, c'est-à-dire à réparer peut-être des choses qui ont été faites et ce n'est même pas de ta faute? C'est ça, mourir à soi-même. C'est ça, être armé de la pensée de souffrir. C'est que je fais des choses où ce n'est même pas ma faute. Est-ce que tu es prêt à te lever pour la justice? Est-ce que tu es prêt, prête à te battre pour ton couple? J'ai marqué entre parenthèses, alors que tout le monde divorce. C'est ça, être prêt à avoir cette pensée, être armé de la même pensée que Christ. Est-ce que tu es prêt à prendre du temps avec des gens qui peut-être ne parleront plus dans 2 ans ou dans 3 ans, juste pour leur annoncer l'évangile? Est-ce que tu es prêt tout simplement à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour que les autres vivent? Je ne veux pas que vous le voyez comme quelque chose de négatif, parce que c'est un encouragement. C'est un encouragement. C'est un encouragement. Et c'est pour un temps donné. Moi, toujours, j'aime rappeler, parce que parfois, je pense qu'on est tous pareils, on a la tête dans le guidon, on est sur cette terre pour un temps donné. Il y a des versets qui nous disent que les larmes cesseront un jour. Mais en attendant, armons-nous de la pensée de souffrir. La pensée de souffrir, ce n'est pas le but de souffrir. C'est pour que Christ soit révélé davantage. Je répète, on s'arme de la pensée de souffrir, ce n'est pas parce que la souffrance va me faire du bien. C'est pour que Christ soit révélé davantage dans certaines situations. Amen. La souffrance permet de construire le royaume de Dieu, permet de témoigner, permet à l'Église de grandir grâce au témoignage. Encore une fois, ça ne veut pas dire de me flageller ou des choses comme ça. Ce n'est pas du tout ça. On a tendance dans nos milieux à avoir souvent à prêcher une foi, une confiance en Dieu confortable, une foi authentique, engagée. C'est vrai, et ce sont des bonnes choses. C'est excitant de vivre les choses avec Dieu. Mais très souvent, ou tout le temps, la foi, elle est coûteuse. Et parfois, ou souvent, on en parle beaucoup moins. La foi avec Dieu, elle coûte. Elle coûte. J'ai encore une question. Sommes-nous prêts à souffrir plutôt que de pécher? Et j'ai bien conscience que ce n'est pas des questions que nous aimons. Est-ce que nous sommes prêts à souffrir plutôt que de pécher? Le péché sera toujours plus facile. Le péché, au début, on aura une idée que ça fait plaisir. Mais l'Évangile, ce n'est pas ça. Sommes-nous prêts à souffrir plutôt que de pécher? Je continue sur comment faire pour mourir à soi-même. On l'a dit, mais je le développe un tout petit peu. Christ, c'est notre modèle. Un modèle, c'est quoi? Un modèle, c'est une aide formidable pour savoir comment faire. C'est ça, un modèle. Depuis 3 mois, j'ai attaqué la construction d'une maison. Et autour de moi, j'ai lu plein de choses sur Internet sur comment faire. Il y a une partie où je sais faire aussi. Et il se trouve que j'ai quelqu'un de la famille éloignée qui a fait des études de béton armé qui a travaillé dans un bureau d'études de béton armé pour faire des ponts pour les TGV, des immeubles entiers. Pendant 40 ans, il a travaillé là-dedans. J'ai un oncle qui a commencé à travailler à 16 ans et qui a construit des maisons. Il a fait que ça. Il a 65 ans aujourd'hui. J'ai un père qui a 65-68. J'ai un père qui a 78 ans qui continue à faire du béton. Alors qu'il a des mains là, il ne voit plus rien, donc les murs sont moins droits. Mais il continue à faire du béton. Et ces trois-là, c'est mes modèles. Chaque fois que j'ai une question, je peux les appeler. Et vous croyez que je pars de où? Et vous savez, quand j'ai des camions de toupie qui viennent pour couler le béton, et les gars, ils vous disent, on ne fait plus comme ça aujourd'hui. J'ai le gars du tractopelle qui m'a dit, mais on ne creuse pas si profond. Je lui dis, ok. Il me dit, on faisait ça il y a 20 ans. Je lui dis, mais par rapport à il y a 20 ans, il se passe quoi? Aujourd'hui, quand je regarde les infos, on nous dit que les maisons, elles bougent. C'est à cause du sol, parce que l'argile, il gonfle, il dégonfle. C'est la sécheresse. Je lui dis, la maison, si elle est faite sur des fondations qui tiennent la route, L'argile, il peut gonfler et dégonfler. Hein. Ma maison, elle ne bougera pas. Et mon oncle, au téléphone, en se moquant de moi, il m'a dit, quand les gens ils vont voir comment tu fais, tout le monde va se moquer de toi. Ils vont dire, c'est un malade. Le gars, il est tout seul, il est malade. Et en fait, j'ai fait mes trucs, j'ai choisi mes modèles. J'ai choisi mes modèles. Et vous regardez, une maison qui se fissure, c'est peut-être 60, 80 000 euros pour réparer. Si ça te coûte 5 000 euros, 8 000 euros de béton en plus, et que ta maison, elle bouge jamais, tu choisis ton modèle. Pourquoi je donne cet exemple? Parce que les gens, ils se rappellent des exemples quand on prêche. Souvent, ils oublient les versets, ils se rappellent des exemples. Tu choisis ton modèle. Si Christ est notre modèle, fils de Dieu, Dieu lui-même, fils de Dieu, venu dans un corps, trentaine d'années sur la terre, il a souffert. Moi, si j'avais le choix, j'aurais pris l'option sans souffrance. Mais c'est moi. Jésus, lui, il est venu sur la terre, il a accepté cette souffrance. Il a accepté cette souffrance. Et là, le verset, c'est Paul qui nous dit, armez-vous de cette même pensée. Armez-vous de cette même pensée. Christ a souffert dans la chair. Il a souffert physiquement, il a souffert émotionnellement, il a souffert spirituellement. Et c'est Jésus-Christ. C'est pas grave. Et en plus, il a souffert, c'est pas parce qu'il avait péché. Il n'a jamais péché. Il a souffert pour nous racheter du péché. Il n'a jamais reculé devant la souffrance quand cela signifiait obéir au Père. Je répète, Jésus n'a jamais reculé devant la souffrance quand cela signifiait obéir au Père. Ça veut dire, et je le dis vraiment, il faut vraiment ancrer ça dans nos têtes, la souffrance, ce n'est pas un signe d'échec spirituel. La souffrance, ce n'est pas un signe d'échec spirituel. C'est un chemin que Christ lui-même a emprunté. Hébreux 5, verset 8, « Bien qu'il fût fils, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Je répète, « Bien qu'il fût fils, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Donc à combien plus forte raison nous sommes appelés à ça. Une action, je crois que tu l'as, une action, c'est ce petit mot qui dit « armez-vous ». Armez-vous de la même pensée. Armez-vous, c'est un terme militaire. C'est pas, alors j'ai rien contre, c'est pas un truc de joueur de trombone. Hein. C'est un terme militaire. C'est un verbe. Un verbe, ça veut dire que c'est une action. Et le temps, c'est un impératif. Ça veut dire, c'est un ordre. Armez-vous. Armez-vous. Ça nous engage. Ça veut dire, toi, tu dois t'armer. Toi, tu dois t'armer. Toi, tu dois t'armer. Nous devons tous nous armer pour se préparer à un combat. Dans nos pensées, ce n'est pas un combat physique évidemment, c'est une arme spirituelle. Mais ça veut dire se préparer mentalement et spirituellement à souffrir comme Christ a souffert. Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » La souffrance avait un sens pour Jésus, elle menait à la victoire sur le péché et à l'accomplissement de la volonté du Père. Tu peux me donner les deux choses qu'il y a sur la chaise, s'il te plaît, à côté de Denis? Non, donne-moi que le citron, s'il te plaît, que le citron. Lancer, j'aurais attrapé. Merci. Comme les gens, encore une fois, se rappellent des exemples. Pourquoi j'ai un citron? Parce que quand je veux faire du jus, il faut le presser. Il faut le couper d'abord. Je vous conseille de le couper. Et il faut le presser. Ça, c'est pour faire du jus. Moi, j'ai toujours grandi avec ça. On a acheté un citron, tu manges du poisson, tu coupes ton citron, tu presses, tu fais ton jus, tu as le truc de grand-mère, tu as le truc, tu tournes à la main, tu as le jus à la fin. Et nous, tu peux me donner l'autre, s'il te plaît? Et maintenant que je vis en ville, je vais dans les magasins, et là, j'ai du pur jus de citron. J'ai du pur jus de citron. Pur jus, il n'y a rien dedans, c'est du jus de citron. C'est juste qu'il y a quelqu'un ou une machine qui a pressé ça pour faire ça. Ça, c'est génial, hein, parce que quand j'en ai besoin de 3 gouttes, je peux les prendre. Ça reste ouvert vachement longtemps au frigo, ça ne s'abîme pas. C'est top, c'est top. Aujourd'hui, je vis avec ça. Ça, je le vis quand j'ai besoin de faire des rondelles. Quand je veux faire un cocktail, c'est pour décorer le poisson. Hein. Mais sinon, moi, je vis avec ça. Je ne dis pas, il ne faut pas le faire, hein, mais moi, je vis avec ça. Et dans notre vie avec Dieu, je crois qu'on est nombreux à vouloir ça. Très nombreux à vouloir ça. Mais ça, tu peux le tourner dans tous les sens. Hein. C'est qu'à un moment donné... Il y a quelqu'un qui a pris ça. Il y a quelqu'un qui a fait pousser l'arbre. Il y a quelqu'un qui a rabassé, qui a mis dans les cagettes, qui a vendu, etc. Il y a quelqu'un qui l'a coupé. Si c'est à la maison, c'est peut-être quelqu'un de la famille qui l'a coupé, qui l'a pressé pour avoir ça. Et très souvent, et je veux nous encourager à ne pas être une église comme ça, à ne pas être des frères et sœurs comme ça, c'est que très souvent, on veut ça sans ça. Le processus, je voudrais vous les mettre, que vous les voyez, mais bon, là, il y a le citron. Le processus entre ça et ça, on ne le veut pas, le processus. Et s'il embête, on lui donne 3 gouttes de citron, il n'embêtera plus. Oh, c'est pas bien. Vous les voyez ? Le processus entre ça et ça, on ne le veut pas. Enfin, peut-être que vous le voulez, mais moi, si je peux l'éviter. Voilà. Moi, je voudrais ça, mais en raccourci, vous voyez. Et ça ne marche pas. Ça marche pas. Et pour avoir ça, vous êtes obligé d'avoir ça au départ et tout le process entre les deux. Et aujourd'hui, Dieu, c'est ce qu'il est en train de faire pour chacun d'entre nous, de passer de l'un à l'autre. Et ce qu'on disait, une fois, je me rappelle d'un témoignage de un pasteur qui voilà, il témoignait. Dans le témoignage, il donne un exemple de quelque chose que Dieu lui a dit de plus faire. Et je ne sais plus ce que c'était, mais moi, je suis dans la salle, je me dis, ouais, ça va, c'est pas si grave. Honnêtement, c'est quelque chose de pas grave. Et le pasteur, Dieu lui a dit d'arrêter de faire ça. Moi, je me suis dit, ouais, ça va, ça, on peut continuer, c'est pas grave. Et c'est juste quoi ? C'est que dans le processus, ben, lui, il était là, et moi, j'étais là. J'ai pas compris pourquoi ce que Dieu lui avait demandé à lui, c'était si important. C'était comme la lumière qui est rasante sur le placo où on voit tous les défauts. Mais c'est ça que Dieu y fait, c'est ça que Dieu y veut faire. C'est pas lié à l'âge, c'est pas lié à notre âge, c'est pas lié à notre maturité, c'est juste lié à qu'est-ce que tu veux vivre avec Dieu. Et Dieu, c'est parce qu'il nous aime qu'il veut aller là. C'est parce qu'il nous aime, et c'est aussi, et c'est là la bonne nouvelle, c'est que pour les autres, c'est beaucoup plus facile de recevoir juste quelques gouttes quand on ne connaît pas l'évangile. D'accord ? Je sais, mais imaginons quelqu'un qui vient, qui ne sait pas ce que c'est ça et ça, ben pour lui expliquer, ça va beaucoup plus vite de mettre 2 gouttes de ça. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire en tant qu'Église, en tant que disciples de Jésus-Christ. On met 2-3 gouttes, et après, alors, on ne roule pas les gens, hein. Mais après, quand ils viennent et qu'ils disent « Moi aussi, je veux avoir 2-3 gouttes pour donner à mes voisins et tout ça. » Je dis « Pas de problème, mais aujourd'hui, on est là. Il faut juste qu'on procède. » Amen. Et c'est la maturité, c'est le disciplinat. Celui qui veut vivre selon Dieu doit mourir à lui-même. Donc ça, c'était l'action « Armez-vous de la pensée de Christ. » Armez-vous de la même pensée par rapport à la souffrance. Un constat, une promesse, dans les autres points, un constat, c'est souffrir dans la chair égale en finir avec le péché. Cette phrase peut paraître étrange, ce verset. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Et Romains 6, verset 7 nous dit la même chose. Celui qui est mort est libre du péché. Il faut bien comprendre, ça ne veut pas dire que la souffrance nous sauve, mais c'est que la souffrance, c'est une preuve de notre choix radical de vivre pour Christ. Je répète, ce n'est pas la souffrance qui nous sauve, mais la souffrance d'accepter des situations, c'est le témoignage que notre vie, elle a changé. C'est le témoignage que j'ai choisi, je vis une situation complètement injuste. Je sais me défendre. Et Dieu, il te dit, Pierre, ne te défends, mets-toi là, ne te défends pas, c'est moi qui te ferai justice. Ben ça demande de mourir à moi-même. Parce que moi, j'avais envie de me défendre. Moi, j'avais envie de me justifier. Et ce n'est pas vrai ce qui a été dit. Et j'aurais pu me défendre. Et je sais le faire. Et j'ai une bouche. Et je n'ai pas peur. Et je connais le vocabulaire. Et Dieu, il te dit, non, toi, tu te mets là. Fais autre chose. Ben, c'est ça, mourir à moi-même. C'est ça, mourir. Et à travers, quand je passe là, à travers cette souffrance-là, pour moi, c'est une souffrance, c'est dur parce que j'aurais pu me défendre. Et ben, Dieu, il te dit, ouais, mais regarde, je suis davantage manifesté. Regarde le témoignage que ça laisse aux gens. Regarde le témoignage que ça donne. Amen. Amen. La souffrance est une preuve de notre choix radical contre le péché. Quand un croyant refuse de céder à la tentation, même si cela lui coûte un rejet, des moqueries, de la solitude, quand une personne préfère perdre un avantage plutôt que de mentir ou de tricher, quand tu choisis d'obéir à Dieu, même si cela implique une douleur personnelle, cela montre que tu en as fini avec le péché, tu n'es plus esclave, tu vis pour plaire à Dieu et non pour satisfaire tes désirs. Il y a une réelle liberté en fait quand on est mort. Quand on est mort à nous-mêmes, il y a une réelle liberté. Amen. C'est parce que nous sommes vivants que les choses nous font mal, nous blessent, etc. Si nous sommes morts et que nous vivons en Christ, c'est-à-dire ça glisse comme sur les ailes d'un canard. Je dis ça, mais j'en suis pas là, mais pour comprendre. Amen. En tout cas, c'est ce que ça devrait faire. En tout cas, j'essaye d'y... Voilà, on y marche de jour en jour. Conséquence, quand nous sommes morts à nous-mêmes, je crois que tu l'as le point, ouais, la conséquence. 1 Pierre 4, verset 2, c'est le verset qui suit. « Afin de ne plus vivre le temps qui reste dans la chair, donc le temps qui reste dans notre nature humaine, selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. » Quand tu es mort à toi-même, tu ne vis plus selon les convoitises des hommes, mais tu vis selon la volonté de Dieu. Et c'est ça qui crée la vraie liberté. Dans ce verset, il y a un truc intéressant, c'est, je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout de suite, il y a un singulier et un pluriel. C'est les convoitises des hommes et c'est la volonté de Dieu. Le pluriel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les convoitises des hommes, il y en a plein. Il y en a beaucoup, il y en a tant que vous voulez, il y en a beaucoup. Par contre, la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Et c'est celle-là qu'on cherche. Et si on est mort à nous-mêmes, on va rentrer là-dedans. Amen. On deviendra des disciples qui sont stables, parce que ça ne dépendra pas de notre confort. Matures, parce qu'on sait qu'on marche pour une cause plus grande que nous. Et victorieux, parce qu'on aura dominé sur le péché et sur nos émotions. Entre parenthèses, sur nos émotions. Porter sa croix, ça fait partie du christianisme. C'est parfois moins évoqué, en tout cas dans nos milieux, et notamment en Occident. Mais porter sa croix, ça fait complètement partie du christianisme. Amen. J'ai... Conclusion en trois petits points. Alors, en plus, le journal a donné le verset tout à l'heure. Quand je meurs à moi-même, Christ est davantage glorifié dans ma vie. C'est pour ça que c'est si important et si fondamental. Et c'est pareil pour notre Église. Jean 3, verset 30, il faut qu'il croisse, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Si je suis mort à moi-même, tout ce qui coule de moi, c'est le Christ et c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Deuxième point de ma conclusion, c'est Pythagore. Comme je me suis dit que c'était la rentrée scolaire, je me suis dit que c'était bien les théorèmes de Pythagore. Alors, je ne sais plus quand on voit ça, ça doit être au collège. Cinquième, quatrième, ils sont troisième, je ne sais pas. Maintenant, c'est peut-être à la fac qu'on le voit parce que le niveau a tellement baissé. Mais Pythagore. Pythagore, c'est juste un théorème qui nous dit que pour avoir un angle droit, si tu mesures deux côtés et le troisième, les trois côtés du truc, ben, tu peux voir si l'angle il est droit, si l'angle est parfaitement droit. Tu apprends ça à l'école, ça te passe... Tu ne comprends pas pourquoi. Et un jour, il y a 3 mois, tu construis une maison. Et là, ton mur, tu te dis, il faut qu'il soit droit. Sauf qu'une maison, si tu prends une équerre, même si tu vas au magasin et que ton équerre elle fait 1 mètre de long, c'est pas sûr que ton mur qui fait 10 mètres de long, au bout, il soit droit. Et là, Pythagore, tu te dis, tiens, si je le mettais en pratique, alors c'est 3, 4, 5, pour s'en rappeler, si j'ai 3 mètres d'un côté, 4 mètres de l'autre sur mon mur, et que la diagonale, l'hypoténuse, le long côté du triangle fait 5 mètres, je répète, si j'ai un mur qui fait 3, sur 3 mètres, j'ai 3 mètres, je mets une marque à 3 mètres, je mets une marque à 4 mètres, et après si entre les deux j'ai 5 mètres, l'angle de mon mur il est droit. C'est Pythagore, par contre c'est Pythagore mis en pratique. Amen ? Amen, j'en sais rien, mais c'est Pythagore mis en pratique. Ah, j'ai oublié, il y a un endroit où je voulais dire « dis à ton voisin ». Pour faire comme Pasteur Joe. Ah, j'ai oublié de dire. C'est Pythagore mis en pratique. Pourquoi je vous parle de Pythagore? Parce que Jacques 1, verset 22 et 25 dit la même chose. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On prêche, on a les groupes de maison, on lit la parole, mais ne nous limitons pas à juste l'écouter. Je sais que c'est des messages qui sont parfois difficiles à entendre, mais mourons en nous-mêmes pour que Christ soit davantage glorifié. Amen. Et troisième petit point de ma conclusion, et dernier, pour le mettre en pratique, j'ai envie de nous dire que c'est une marche de tous les jours. Et quand j'étais petit, ça vaut ce que ça vaut, s'il y a les profs de français. Quand j'étais petit, on m'a donné un moyen mémotechnique pour, je suis prêté comme ça, et ça m'est toujours resté. C'est mourir, ça prend un seul R parce qu'on meurt une fois, et nourrir, ça prend 2 R parce qu'il y a 2 repas dans la journée. Mais n'empêche que maintenant, je sais toujours que mourir, il n'y a qu'un R, et nourrir, il y en a 2. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai envie de nous dire, pour s'en rappeler, c'est que mourir, il faudrait l'écrire avec 365 R. Un R pour tous les jours. Mourir, c'est jour après jour, après jour, après jour. Amen. Bien sûr, aujourd'hui, je me dis je veux mourir à moi-même. Mais demain, quand il y a mon collègue de boulot, quand il y a un parent d'élève, quand il y a un voisin qui va me gonfler, ben peut-être que le mourir à moi-même, il sera plus difficile. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est une marche de tous les jours. Amen. Alors, on finit par la citation de Luther, le groupe de louanges, si vous voulez venir. Ouais, on reprend un chant et on finira par les annonces. Tu fais les annonces avant ? Ouais, bah attends, une seconde, on va faire les annonces avant. On parle de Luther et puis on nous dit qu'il faut faire les annonces. On parle de mourir à nous-mêmes, on nous dit qu'il faut faire les annonces. Si tu peux mettre la citation de Luther, je ne sais pas si vous arrivez à lire. J'ai voulu noyer le vieil homme. J'ai voulu noyer le vieil homme, mais le misérable, ou alors le bougre, mais le bougre, il s'est nagé. Ça a 5 siècles, c'est toujours d'actualité. J'ai voulu noyer le vieil homme, mais le bougre, il s'est nagé. Ouais. Et si vous voulez noyer, si vous voulez que quelque chose reste au fond de l'eau, il faut y mettre un poids. Donc, mettez ça autour de votre cou et noyons le vieil homme. On fait quoi ? On se met debout. Moi, je vais finir par la prière. Puis après, on va voir. Vous aurez les annonces ou la louange. C'est des sujets, je pense. Si on peut se mettre debout pour prier, c'est. C'est des cultes de rentrée un peu spéciales. Souvent, on reprend la vision, etc. Mais c'est ça, la vision. Il faut juste mourir à nous-mêmes. Et aujourd'hui, on vit... Oui, je voulais finir avec ça. On vit des temps de faveur dans notre Église. Dieu est là, Dieu se pointe. Dieu est là dans nos temps de louange. Il y a des gens nouveaux tous les dimanches. C'est des temps bénis. C'est des temps... Je ne vais pas dire... C'est des temps faciles. C'est des temps avec Dieu. Et Dieu, il nous demande justement de mourir encore plus. En tant qu'individu et en tant qu'Église. Seigneur Jésus, je te prie de nous aider individuellement et en tant qu'Église à être armés de cette pensée de souffrir. C'est vrai que Seigneur, ça nous coûte et nous voulons juste déposer nos désirs, nos envies, Seigneur, au pied de la croix et vivre pour toi, vivre complètement pour toi, Seigneur Jésus. Merci parce que je sais que tu pourvois mes besoins. Merci parce que je sais que quand je marche avec toi, mes désirs, mes envies, ma volonté s'alignent sur tes pensées à toi, Seigneur Jésus. Et on veut être comme ça, Seigneur. On veut être des frères et des sœurs, des disciples, une église comme ça, juste alignée sur la pensée de Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus, à encore diminuer pour que toi, tu grandisses. Que nous soyons un peuple connu, non pas pour nos qualités, notre façon de faire, notre gentillesse, le fait d'être accessible, mais que nous soyons un peuple connu parce que nous reflétons la gloire de Dieu. Un peuple connu parce que nous sommes transparents devant toi, devant ta seigneurie, devant ta magnificence, devant ta bonté, devant ta gloire, devant ta grâce, Seigneur Jésus. Juste que nous puissions continuer à être transparents. C'est toi qui est merveilleux, qui est génial. Tu n'as rien à voir avec nous, Seigneur Jésus. Et pourtant, tu t'abaisses pour que nous puissions te rencontrer et te connaître. Sois loué, Seigneur Jésus. Amen.